France Inter.
Le blanchiment d'argent. Ça me fait un peu rire parce que c'est maintenant qu'on se réveille. C'est le sport mondial de pratiquement 80% des gouvernements. C'est plus une rigolade qu'autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen, chaque après-midi l'émission qui zoome sur son époque sans jamais oublier d'en rire, autour d'un mot, d'une pratique. Aujourd'hui j'ai eu l'idée du thème en observant la hausse récente et spectaculaire du train de vie de notre reporter de terrain Quentin Luy. Présenté en septembre dernier comme vivotant péniblement à la limite du seuil de pauvreté, peinant à présenter les garanties nécessaires à l'obtention d'un prêt immobilier pour un F2 à Ivry-sur-Seine, Quentin semble s'être renfloué dans des proportions qui défient l'entendement, puisque entre deux week-ends au Cap Ferré, certainement pour claquer la bise à son frérot Pascal Obispo, Quentin serait sur le point de racheter comptant la moto de Cyril, notre rédac-chef. Comment passe-t-on de bénéficiaire du RSA à nabab de l'audiovisuel qui ne regarde même plus ses fiches de paye? Comment surtout le faire sans éveiller les soupçons du fisc et non pas du fixe, ça n'a pas de sens. Zoom aujourd'hui sur le blanchiment d'argent. Pratique ancestrale mais qui évolue, se renouvelant sans cesse à la faveur des innovations technologiques. Il est loin le temps où Cyril Lacarrière, alors jeune agent du FBI, blanchissait le cash confisqué aux sbires d'Al Capone pour l'investir dans des pizzerias et le retrouver tout propre après quelques margaritas. Non, aujourd'hui, le blanchiment s'est considérablement raffiné, complexifié. Les blanchisseurs ont toujours recours à des commerces de proximité comme les kebabs, mais ils envoient aussi l'argent sale dans de grandes lessiveuses comme les paradis fiscaux et des structures offshore. Comment tout cela fonctionne-t-il ? Pas vous donner des idées, hein. Si Bercy vous tombe un jour dessus en vous demandant qui vous a donné la combine, ne dites surtout pas France Inter, dites juste Cyril Lacarrière. Oui, je tiens à souligner que c'est lui et lui seul, en conscience, qui a décidé de cette émission Borderline. Zoom Zoom Zen spécial blanchiment, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et pour comprendre les nouvelles ficelles du blanchiment, on avait deux options, suivre Quentin Luy pendant 24 heures ou recevoir un expert du blanchiment. Afin de préserver l'esprit d'équipe, j'ai opté pour la deuxième option. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation indépendant, spécialisé dans les milieux de la justice, du banditisme et du renseignement. Alors, question blanchiment, vous êtes assez calé. Il y a deux ans, vous avez publié « Les narcos français brisent l'omerta, restaurants, salons de massage, kebab, banque, immobilier, l'argent sale est partout » chez Albin Michel. Même dans les salons de massage, non, pas les salons.
Dès lors que vous payez le service en espèces et non pas en chèque ou en carte bleue, ça peut intéresser les blanchisseurs.
Et vous venez de sortir, je le précise, Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques chez Plon, l'histoire de celui qui était surnommé le dernier parrain des parrains. Comme vous êtes malin, vous êtes assuré de vous faire bien voir en coécrivant le livre avec Christine Imbert, la veuve de Jackie Imbert, qui n'est autre que Jackie le Mat. Je dis bien joué. Alors, Frédéric, vous allez nous raconter comment le blanchiment s'est transformé ces dernières années, comment le temps de vous présenter mes pittoresques acolytes. À commencer donc par celui qui inquiète le plus Bercy et dont le trésor caché, quelque part, dans une forêt alençonnaise et
musique de Navarro, quoi.
Remontant à ses années Café Richard, serait plus conséquent encore que celui du gang des postiches. Dernièrement, il a eu maille à partir avec la justice qui lui réclamait de fortes sommes dans une sombre affaire d'infraction au code
c'est
de
terminé,
la route.
C'est terminé.
Les poursuites ont été abandonnées, preuve qu'il a le bras long, suffisamment en tout cas pour entraver la marche de la justice. Méfions-nous de cet individu. Bonjour Quentin Luy.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Ça vous rappelle des souvenirs, Navarro ?
Oui, bah, c'est mon époque. Hein.
Évidemment.
Oh là là.
Alors, Quentin, ce week-end, vous étiez à Bordeaux pour affaires et vous avez profité, vous avez profité pour tendre votre micro aux Bordelaises et aux Bordelais.
Et nous avons parlé blanchiment. Vous imaginez bien que tout le monde s'est méfié. Alors, qui blanchit ? Vous ? Comment ? Racontez-nous comment vous faites. Bon, évidemment, personne ne m'a répondu. Je n'ai pas rencontré de narcotrafiquants, mais vos avis sur ce thème dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
À votre gauche, Frédéric, elle non plus, nul ne sait d'où provient vraiment sa fortune. Qui mathématiquement ne vient ni de son salaire en CDDU, ni des droits d'auteur de Caresse du désir, ce single autoproduit en 2017 qui n'en a jamais généré.
Oh.
Mais alors d'où vient cette insolente moula qui lui permet chaque été de parader au volant de BMW toujours plus clinquante ? Avec à son épaule le dernier sac Courrèges. Et si la production de musique électronique n'était pas le vrai métier de son père, Ange Mariani, c'est la question que commencent à se poser les agents de Bercy qui vous ont à l'œil. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour Mathieu. Ange vous invite d'ailleurs dans sa maison en Corse. Vous venez quand vous voulez.
En voisin. Alors. Ouais. Manon, quand vous ne cruisez pas en vitesse 1 de votre X6, vous aimez flâner sur les réseaux sociaux qui sont pleins de surprises, mais pas pour vous.
Et aujourd'hui, zoom sur les mean girls d'Instagram, les pestes, celles qui ont l'air inaccessibles, qui sont toujours parfaites sur leurs photos, qui nous prennent de haut, il faut le dire. Eh bien, je vais vous dire, Mathieu, leur règne est enfin fini. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Petite révolution en vue. Le blanchiment de fraude fiscale est un délit qui m'est totalement étranger. En revanche, je préfère prendre les devants si quelqu'un devait un jour me le reprocher. Je suis très coutumier du blanchiment de fraude tout court. Ça s'appelle le Zoom Zoom Test. C'est vers 16h30. Enfin, en parlant de fraude, hasard du calendrier, c'est Pierre Thévenoud qui nous rejoindra pour ponctuer cette émission d'une belle chronique humour sans chute. Frédéric Ploquin, pour qu'on sache bien de quoi on parle aujourd'hui, si Quentin, lui, paye ses employés de maison en cash, c'est déjà du blanchiment d'argent ou c'est juste de la radinerie? Où commence le blanchiment d'argent du point de vue de la loi?
Effectivement, il peut y avoir de la radinerie si on ne peut pas payer le fisc, l'administration fiscale et les charges sociales. Mais dès lors, c'est déjà une tricherie, c'est déjà une tromperie et déjà c'est passible de poursuite. Le blanchiment, il commence dès lors que vous savez que l'argent, que les billets de banque que vous avez entre les mains sont d'origine illégale. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de bulletin de salaire, ça sera déclaré à personne et vous ne les déclarerez pas aux impôts. Et que vous tentez de les glisser, de les blanchir, c'est-à-dire en gros de les légaliser. C'est ça l'idée du blanchiment.
De les glisser dans le système
C'est-à-dire qu'il faut prendre, il faut prendre sa liasse de billets de 500 euros dont on ne sait pas trop quoi faire. Il faut arriver à lui donner une existence légale et un jour peut-être pouvoir le récupérer sur son compte en banque. C'est quand même ça l'idée. C'est d'officialiser, de faire émerger de l'argent sale, intouchable, avec lequel on ne peut rien faire, et de le récupérer sur son compte. Alors, à partir de là, il y a toutes sortes d'ingénierie possible, de l'artisanat à la grande modernité.
Donc, on va parler dans cette émission. Une autre question pour vous, Frédéric, et là j'en appelle à votre expertise du grand banditisme. Peut-on, vu les prix actuels de l'immobilier, acheter un appartement à Paris sans avoir préalablement vendu le sien? Non, bien sûr, une telle désinvolture ne peut s'expliquer que par un blanchiment d'argent à l'échelle industrielle. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Vous allez passer par un pré-relais finalement ou...
Continuez mon vieux.
Très bien. Alors Cyril, quand vous ne passez pas relever la caisse d'un de vos 50 kebabs, vous êtes journaliste sur France Inter, votre mission nous permet de remonter aux origines de notre mot du jour. Alors le blanchiment, d'où ça sort?
C'est aux États-Unis dans les années 20 que le terme est apparu pour la première fois. C'est l'époque de la prohibition. L'époque où la fabrication, la vente et l'importation d'alcool sont totalement interdites dans le pays. Pas de soirée vodka paillette pour Manon et Quentin.
Dommage.
Oui. Cette loi fédérale est évidemment contournée par les malfrats. Cette économie souterraine leur fait gagner des fortunes. Sauf que ces montagnes d'argent gagnées de manière illégale, il faut le remettre dans le circuit, le rendre légal. Et c'est comme ça que va naître, j'allais dire officiellement, le blanchiment d'argent. Un terme qui définissait déjà ce qu'il définit aujourd'hui, transformer de l'argent sale en argent propre, c'est ce que vous disiez Frédéric Ploquin. Mais si le terme est apparu dans les années 20, la pratique existait bien avant la pègre américaine. En fait, on blanchit de l'argent depuis des siècles et des siècles. La période de la prohibition l'a seulement fait devenir presque une activité à part entière.
En fait, on a juste industrialisé le blanchiment.
C'est exactement ça. C'est même devenu un business très moderne. Ceux qui le pratiquent utilisent des techniques financières particulièrement sophistiquées, sociétés offshore, comptes bancaires anonymes, transactions transfrontalières, et tous les secteurs servent désormais à blanchir de l'argent, aussi bien l'immobilier, non, que les jeux d'argent en passant par l'art et les kebabs. On va le voir avec vous, Frédéric Ploquin, il y a encore d'autres secteurs qui participent à cette économie parallèle. Évidemment, les pays cherchent à lutter contre ce problème, ils font des lois pour l'endiguer, mais comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, les criminels ont souvent un temps d'avance sur la police. Alors, le blanchiment d'argent, phénomène incontrôlable, où est-ce qu'il existe de véritables solutions? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Frédéric Ploquin, Cyril vient de nous rappeler le blanchiment d'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça remonte à l'époque de la prohibition aux États-Unis. Est-ce que ça a vraiment changé? Les techniques ont vraiment évolué depuis cette époque ou finalement c'est toujours un peu les mêmes schémas?
Longtemps, elles sont restées les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, investir dans une pizzeria, comme vous disiez tout à l'heure, c'était vraiment le must. Et ça s'est fait aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en France, comme en Italie, un peu partout. Donc, l'investissement dans l'immobilier, dans des commerces, pouvait se faire relativement facilement pour les grands voyous par le biais d'hommes de paille. En fait, ils avaient des hommes de paille. Il faut recruter un cousin, une cousine, un frère, une sœur, ou quelqu'un qui accepte de se mouiller pour vous et de devenir officiellement le propriétaire du bien. Donc vous pouvez aller acheter un hôtel sur la Costa Brava, vous pouvez aller acheter ce que vous voulez, dès lors que c'est pas vous qui en êtes le propriétaire officiel. Parce que si, à un moment donné, la police vous tombe dessus et vous demande des comptes et laisse fait apparaître l'idée que vous êtes propriétaire de ce bien, on va vous le confisquer. C'est pas tellement sympathique, donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui assume. Au risque...
Il n'y a jamais des hommes de paille qui se retournent.
Voilà.
Ah voilà.
Au risque, moi j'ai connu des grands voyous qui pleuraient leur mère, si j'ose dire, sur leur vieil âge, parce qu'ils avaient acheté plusieurs hôtels en Espagne, et puis que la sœur de l'homme de paille, à un moment donné, parce l'homme de paille était mort, s'était approprié le bien et l'avait vendu. Alors ils avaient 70, 80 ans, évidemment ils avaient cotisé à aucune retraite, ils cherchaient de l'argent en espèces pour continuer à vivre. Et là, il leur venait l'idée d'aller... Moi, en général, quand on me dit ça, je décourage d'aller tuer la sœur ou la belle-sœur qui avait.
Ah oui,
non, c'est peut-être pas la peine.
Ah oui, vous êtes de bons conseils quand même. Oui, c'est important de le souligner quand même. Hein.
Non, c'est peut-être pas la peine. Il y a un âge où il vaut peut-être mieux rester un peu tranquille, etc. Parce qu'en fait, ça ne te rapportera pas ton argent. Donc, effectivement, il y a cette idée-là, mais quand même, ce qu'il faut dire aux auditeurs, la première chose à dire, à mon avis, c'est que pendant le principal objectif dans la vie du voyou, du trafiquant, de celui qui triche, c'est de jouir de son argent. D'accord. Alors, il peut le mettre. En attendant, soit ça s'est fait dans certains endroits, dans un trou dans son jardin. Il peut le mettre sous son matelas, mais comme me disait un voyou, garder de l'argent sous son matelas, c'est un peu une bombe à retardement. Mais surtout, il va l'investir. Et le but du voyou, c'est jusqu'au moment où il sera encore en vie, parce que tôt ou tard, il va se faire tuer par un collègue, par son meilleur allié. C'est ça la vie de voyou. Donc moi, tous ceux que j'ai connus, c'est notamment Jackie Lemat, là, dont vous avez rappelé que je fais le portrait, c'est le Fouquet tous les jours, l'hôtel Regina tous les jours,
le train de vie de Cyril,
le meilleur champagne à table tous les jours, la voiture. Et ça, c'est en fait le voyou est d'abord un très grand dépensier et il blanchit au quotidien par son train de vie.
Il blanchit plus facilement parce que vu son train de vie.
Allez un jour dans la garde-robe d'un vieux bandit, vous serez surpris. J'ai ouvert parfois ses armoires. Non, mais ils se font. Pendant les années, enfin depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, ces voyous ont donné du boulot à tous les grands couturiers.
Et ça, il faut le dire aussi.
En gros, non mais
ils font tourner l'économie. Vous avez raison de le dire.
Mais non, mais aujourd'hui on paye moins en espèces, mais il faut quand même rappeler jusqu'à maintenant.
On va revenir sur le changement d'époque avec ce.
Et donc voilà, être bien habillé, avoir 17 costumes, j'en ai vu qu'il y avait 40 paires de chaussures, 50 paires de chaussures.
Oh là là. Comme Cyril.
Le témoignage de Cyril à suivre. Pendant des années, avec les Tobas, leur chanson avait perdu de son intérêt. Certains avaient même complètement cessé d'écouter téléphone. Et puis la BCE a décidé de remonter ses taux. Et un tube revient au goût du jour. Argent trop cher sur Inter.
Le blé, allez dans la serrée.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Frédéric Ploquin, journaliste spécialisé dans le banditisme, a bien connu deux parrains, Jackie Lemat, il en a fait un livre, et Cyril Lacarrière, il va en faire un livre, me disait-il hors antenne. En attendant, Frédéric, on zoome avec vous sur les nouveaux circuits de blanchiment d'argent. Alors déjà, est-ce qu'on arrive à estimer la quantité d'argent blanchi chaque année, ce que ça représente ? Est-ce qu'on en a une idée, en France ?
En France, moi j'ai fait une étude un peu sur, notamment sur les stupéfiants qui sont quand même aujourd'hui le cœur du crime, et on évalue à environ 4 milliards d'euros le chiffre d'affaires rien que pour les stupéfiants en France. C'est énorme, et si on à l'échelle mondiale, on arrive à un chiffre qui, selon les spécialistes aussi, entre 500 milliards et 600 milliards. Donc vous imaginez bien que cette manne, évidemment, ne va pas être perdu pour tout le monde, et que c'est pour ça que finalement le blanchiment c'est relativement simple et facile, parce que vous avez tellement de gens vulnérables, tellement de gens fragiles, tellement de banquiers un peu comme ça et qui tirent un peu la langue pour, notamment quand il y a des crises bancaires, notamment quand il y a des crises économiques mondiales, je pense à 2008, qu'à ce moment-là tout d'un coup c'est table ouverte et vous avez tellement d'espace où rentrer. Évidemment, la France c'est un des pays où la lutte contre le blanchiment est la plus stricte, on va dire. Donc il vaut mieux aller ailleurs. Quand vous êtes un trafiquant français, il vaut mieux aller à Aruba, dans les Caraïbes, à Dubaï où vous êtes accueilli avec, vous pouvez amener jusqu'à 100 000 euros dans votre valise. À Hong Kong, c'est la même chose. Les Chinois, je vous en parle même pas. Les Chinois, vous arrivez comme à Hong Kong, vous arrivez là-bas avec votre sac rempli d'espèces. Du moment que vous dites à votre interlocuteur, vous le dites à personne, mais j'ai fraudé le fisc français, et ben c'est un passeport. On dit, en gros, le banquier rigole, éclat de rire, ha ha ha, vous avez bien fait. Ah oui, il suffit de cette déclaration verbale.
Mais justement, en France, qu'est-ce qu'on risque légalement ?
Alors, le blanchiment d'argent est un crime. Le blanchiment d'argent est un commerce en soi. Le commerce de l'argent est un commerce, mais le blanchiment d'argent est poursuivi par la loi et les peines sont extrêmement lourdes dès lors que c'est prouvé. Mais ça fait 50 ans, en gros, que les blanchisseurs profitent et jouissent d'un... Je vais vous donner une explication. Jouissent de quelque chose qui est assez exceptionnel, qui fait que, au sein de la police judiciaire française, la branche, le financier... n'a jamais été quelque chose de très prisé. C'était même, pendant des années, ça a été très secondaire. En gros, ce qui comptait, c'était de sauter sur les voyous à la sortie de la banque. Mais alors, aller faire des enquêtes financières complexes, fastidieuses, sous la paperasse, c'était pas du tout un boulot recherché dans la police judiciaire. Et ça reste encore le cas aujourd'hui. Ça reste un métier pour la police judiciaire très, très spécialisé. Il faut être super bon et il faut aimer se mettre dans la paperasse. Donc, c'est un peu gris. Et ça, les voyous, ils en ont profité depuis toujours.
Comment on blanchit de l'argent ? Ça fonctionne comment ? Si demain je veux le faire, moi ?
Alors, vous pouvez. Il y a différentes manières de le faire, mais Jackie Lemat, lui, il achetait des tickets. Il allait au tiercé. Il repérait les gagnants. Il leur achetait leurs tickets. D'accord ? Ouais. Moyennant une petite surcote, quoi, disons. Si vous
encore
avez gagné,
plus que si vous avez gagné
20 000 ou 30 000 euros au PMU, ils venaient de vous voir. Ils disaient, bon, ok. Moi, je vous donne 32, 33. C'est pas déclaré, de toute façon, parce que les gains du PMU, vous en faites ce que vous voulez. Et en échange, il récupérait le ticket. Et si un jour, la police arrivait chez lui en disant, mais
vous faites bien cet argent?
Comment est-ce que vous pouvez justifier vos revenus? Ben, il disait, attendez, regardez, il allait ouvrir un tiroir et il y avait 17. Et on s'apercevait qu'il gagnait tous les jours au PMU.
Ce qui est fou.
Face à vous, Frédéric Ploquin, dire qu'il y a quelques mois encore, il prenait le métro vêtu en H&M. Désormais, c'est en R1 qu'il arrive à Radio France. Soleil dans la bulle, sur le Trocadéro, Shifter Pro. Se saplue qu'en Hugo Boss, et le week-end, il saute dans la RS4 Grinardo direction le Cap Ferré. Et si, en démissionnant du Café Richard, Quentin, lui, avait piqué un peu plus qu'un percolateur. Qui finance ce dispendieux train de vie ? Bref, Quentin, aujourd'hui, c'est en connaissance de cause que vous avez demandé aux passants ce qu'ils pensaient du blanchiment.
N'importe quoi. Nous sommes en début de journée. Deux copines partent à la salle de sport.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom, madame ?
Caroline.
Vous avez quel âge ?
Je suis obligée de le dire, 46. J'aimerais bien avoir 7 ans de moins.
Bah, on va dire que vous avez 7 ans de moins, c'est de la radio.
Ah oui, alors j'ai 32 ans.
Voilà, c'est plus facile. Caroline, je crois que je me moque d'elle et que j'ai un faux micro. Alors je lui explique le concept de l'émission.
C'est dire la notoriété de notre émission, quand même. C'est
Vous n'êtes pas Guillaume Meurice ?
Ah bah non. Donc je lui fais lire...
Ah, le blanchiment d'argent. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oh là là, c'est pas bien, là là, quand même c'est nul. Oh là là, faut faire quelque chose. Bah, si nous allions manifester. Bah, non. Bah, voilà, c'est un fait. Moi, par exemple, je suis à mon compte, je suis entrepreneur, mais je veux payer mes charges parce que c'est hyper important. C'est pour le bien-être de la société, les routes, les hôpitaux. Enfin, les impôts, ça sert à quelque chose, quoi.
Vous faites un peu de blague, vous ?
Non, jamais. Mais je suis super contre. Moi, par exemple, je travaille avec des boîtes. S'ils font du blague, je travaille pas avec eux.
Sa copine Marie veut réagir sur certains commerces qui s'installent.
J'en sais rien, parce qu'en fait, moi, c'est des gens qui me racontent. Mais t'as pas remarqué que ce truc-là, c'est toi qui me racontes ça?
Qu'est-ce qu'ils disent? Ça m'intéresse.
Là, ils me disent, c'est bizarre, un jour, une amie, elle voulait acheter des pizzas, ils étaient en galère, et ils sont allés dans le commerce d'en face qui vendait des pizzas, et apparemment, les mecs étaient incapables de leur faire une pizza, quoi.
Ah ouais?
Et ils ont sorti apparemment des pizzas, ils sont allés aux fans, enfin, c'était. Et donc, ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est du blanchiment d'argent.
Quoi penses-tu? Imagine la galère des mecs. La soirée se passait bien, le four était éteint, la pile de bois. Le pizza n'avait pas bougé. Et là, des clients qui entrent, ils sortent une pizza congelée. On aurait dit un apéro d'équipe chez Mathieu Noël. C'est fou. Bon, il faut que je fasse attention.
Il y a peut-être quand même certaines limites. Comme la fraude fiscale.
Il nous faudrait un peu de contenu, quelqu'un qui pèse dans le game du blanchiment. Ma chance traditionnelle, ma bonne étoile de la street, m'amène à cette rencontre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Pierre.
Pierre, valise, sac.
Oui.
Vous venez d'où vous?
Poitiers.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis cabinet d'expertise comptable.
Ah, là, on va parler affaires.
Et le blanchiment d'argent, c'est un problème assez courant.
En France?
En France, oui.
Comment on l'explique, ça?
Je ne sais pas s'il y a un côté latin, certainement, quelque chose qui n'existe pas dans les pays scandinaves, par exemple.
Ah, c'est géographique, quoi.
C'est culturel.
Le blanchiment serait dans notre culture. Je lui demande de m'expliquer ce qu'est le blanchiment d'argent.
Il y a toujours une négociation dans un contrat. Le client veut 90, le fournisseur veut 100. Ils se mettent d'accord sur 65, c'est le blanchiment d'argent qui commence. Ce sont les rétrocommissions qui font qu'on se met d'accord sur un chiffre supérieur à celui de départ. Effectivement, mais il y a 15 qui vont passer dans la poche du dirigeant de l'entreprise vendeuse. Comprenez?
Non.
Et ça, je n'invente rien. C'est connu.
Ouais, c'est connu, mais moi, je n'ai pas compris. Il me dit que ça a toujours existé, que ses clients, lui, n'en font pas. C'est normal, c'est toujours les autres. Mais alors, comment on y remédie?
La solution, peut-être, c'est celle que veut mettre en place le gouvernement. C'est la facturation électronique. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas émettre une facture en tant que fournisseur sans avoir l'aval de l'administration fiscale. C'est-à-dire que vous mettez votre facture sur une plateforme électronique qui va être validée par l'administration fiscale et qui va être envoyée au client. Le client étant lui-même fournisseur par rapport à d'autres clients, la plateforme électronique de l'administration fiscale va centraliser toutes les factures.
Il y aura un contrôle à la base.
Exactement.
Ah ouais?
Je pense que c'est la bonne réponse, mais ça va être très difficile à mettre en place.
Eh, la fête est finie, hein. Alors qu'il marchait avec son casque audio sur la tête, je rencontre Bastien, il bosse dans l'informatique. Quand je lui dis blanchiment, lui, il pense à...
Les crypto-monnaies. Je sais que c'est beaucoup associé au blanchiment d'argent, même si je suis pas tout à fait d'accord. Certaines personnes pensent qu'on est plus facilement anonyme et que ça servirait beaucoup à blanchir de l'argent. Ça sert aussi à échapper aux États, par exemple, aux États où les monnaies sont hors de contrôle, comme le Zimbabwe, l'Argentine ou le Venezuela.
Du coup, on va vers de plus en plus de blanchiment, si on suit votre raisonnement?
Non, pas forcément, parce que ça va remplacer le liquide qui sert aussi beaucoup au blanchiment et... Il y a de plus en plus de transactions électroniques. Maintenant, moi, quand je vais à ma boulangerie ou n'importe quel commerce, je fais tout en sans contact. Je pense que le fait que les gens utilisent beaucoup moins le cash, ça va peut-être pas lutter contre le blanchiment massif, mais contre toute la petite fraude diffuse. Donc, il y a deux effets, quoi.
Alors que j'achète un café importé, en liquide, je vois arriver au loin ce couple qui marche main dans la main. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms?
Jean-Jacques.
Annie.
Vous avez quel âge, l'un et l'autre?
13.
Vous avez l'air en forme, la vie est belle?
Il y a beaucoup plus malheureux que nous.
On rentre de vacances, alors ça va.
Vous étiez où?
En Corse.
Voilà, en Corse, bronzé comme tout. Lui, c'est Enzo Ferrari. La gabette de Gavroche, les lunettes de soleil, les dents ultra blanches. Elle est un peu plus discrète, blonde, le rouge à lèvres qui s'en va un peu, mais les yeux qui pétillent, ils réagissent.
Le blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent.
Oui, ça me fait un peu rire parce que c'est maintenant qu'on se réveille. C'est le sport mondial de pratiquement 80% des gouvernements. C'est plus une rigolade qu'autre chose.
Et paf, dans les dents, enfin les fausses dents du système. Est-ce qu'il sait comment on blanchit de l'argent, Jean-Jacques?
Bon, c'est très simple. Je vous donne 10 000 euros en espèces. Faites-moi un chèque de 8 500.
Oui, bon, ça va un peu vite entre nous. En studio, levez la main pour ceux qui pensent que Jean-Jacques est un bandit.
Personne. Oh non, pense... je me permettrai pas.
Oh non, j'ai peur.
Ah si, 1, 2, 3, tout le monde pense. On vérifie. Vous avez jamais blanchi?
Oh bah non, que je comblanchis.
Écoutez, déjà, attendez. Un, je suis pas la moitié d'un con. Un, si je l'avais fait, je vous le dirais pas. Et deux, je serais pas là en train de glandouiller à 73 ans, aller faire mes courses et revenir...
En Corse?
Ou peut-être dans un paradis fiscal.
C'est ça la vie. Retraité dans un paradis fiscal à profiter à fond du blanchiment qu'on a fait jusqu'à nos dents.
Merci Quentin. Zoom sur le blanchiment aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen avec vous, Frédéric Ploquin. On a entendu plein de choses dans ce micro-trottoir. On a parlé crypto-monnaie. Est-ce que les crypto-monnaies, ça permet, c'est un autre moyen de blanchir de l'argent aujourd'hui, plus pernicieux?
Ça pourrait l'être, et effectivement, on s'est rendu compte que ça le devenait, et ça l'était justement à cause ou grâce à l'anonymat qui est derrière. Mais si vous voulez, le blanchiment, il n'a pas besoin, il n'a pas attendu les crypto-monnaies, dans la mesure où vous avez tellement de pays dans le monde où l'économie, je veux dire, là, il y en a plusieurs qui disaient aujourd'hui, effectivement, on paye tout avec des cartes bleues, etc. Mais vous avez tellement de pays dans le monde où, en gros, rien n'est déclaré, le travail n'est pas déclaré. Je veux dire, il paraît qu'il y a un nombre de banques absolument incroyable au Sud-Soudan, nouvel état. Je veux dire, vous allez au Zimbabwe qui a été cité, au Sud-Soudan. Vous allez ensuite dans des pays qui en font un peu une, justement, de la publicité, une porte d'entrée. Vous allez à Dubaï. Vous allez à Dubaï, vous savez, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez effectivement arriver là-bas, acheter un appartement. Mettons, vous achetez un appartement 2 millions d'euros en cash, d'accord ?
Dans vos tarifs, quoi.
C'est clairement
pendant
moi.
Quelques jours, pendant 2-3 jours, vous êtes un petit peu suspect, etc. Mais vous avez le droit et la possibilité de le revendre une semaine après. Donc vous le revendez, et là vous récupérez, peut-être, ça peut être, même si c'est 100 000 euros de moins, c'est pas
très grave. En cash aussi ?
Vous le récupérez, justement, vous l'avez blanchi, vous le récupérez sur votre compte en banque, et là vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier. Donc il y a tellement de pays où on ferme les yeux que les crypto-monnaies, où c'est un petit
c'est
plus.
C'est un truc parmi d'autres, certains, c'est un truc parmi d'autres. Il n'y en a pas besoin, c'est tellement facile.
Non, ce qui est intéressant dans le blanchiment, c'est que vous avez aussi bien le petit artisanat, on en parlera, que les systèmes les plus sophistiqués grâce à l'informatique et Internet aujourd'hui.
C'est culturel. Il nous disait tout à l'heure, c'est latin, c'est dans la culture. C'est vrai, les pays scandinaves, ils ne blanchissent pas.
Il n'y a pas de mafia en Scandinavie, c'est ça.
Je sais pas.
Peut-être que c'est ça qu'il veut dire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'apparemment, il arrive de Corse, c'est ça. Le système mafieux est quand même un système éminemment méditerranéen. Le modèle mafieux est méditerranéen au départ, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Ce qui signifie pas, à mon sens, qu'il n'y a pas de bandits, de voyous ou de gens qui blanchissent de l'argent en Allemagne ou en Suède. Faudrait pas aller trop vite en besogne.
Mais quand même, on a l'impression d'une grande facilité quand on vous écoute pour blanchir de l'argent aujourd'hui. C'est quand même peut-être plus difficile aujourd'hui qu'il y a 30 ans, avec le fait que, par exemple, quand on a un restaurant, la plupart des clients payent en carte bleue, très peu en cash. Il y a moins de cash qui est racheté, donc moins de black.
C'est justement, moi je parle d'un blanchiment de proximité. Quand je parle des kebabs, des salons de massage, de la petite restauration rapide, des salons de barbier, pourquoi pas, tout cela. En réalité, l'avantage, c'est que les clients payent encore aujourd'hui en cash dans ces endroits.
Ah d'accord. Okay.
Et donc, en fait, l'idée, parce que ça, il faut un peu expliquer pour le comprendre, l'idée, c'est de déclarer un chiffre d'affaires supérieur au chiffre d'affaires réel. Ouais. Donc vous allez faire semblant de gagner de l'argent. C'est un peu le contraire de ce qui se passe quand on veut frauder le fisc. C'est-à-dire vous allez déclarer 4000 euros, je dis n'importe quoi, de chiffre d'affaires dans le mois alors que vous en avez fait que 1000. Et tout le reste va finalement vous permettre d'intégrer des valises d'espèces que vous avez à la cave. D'accord. Sur le côté dans le chiffre d'affaires et ensuite de payer des impôts dessus. Et à la sortie, vous récupérez de l'argent que vous pouvez utiliser et réinvestir.
C'est vachement vicieux quand même. On continue à parler blanchiment, toute l'égalité sur France Inter avec Frédéric Ploquin, à venir notamment cette question qui fait froid dans le dos. Et si la finance mondiale était complice du blanchiment ? Avouez que ça vaut bien un petit bruitage de la Cité de la Peur. En attendant, voici un artiste qu'on adore dans Zoom Zoom Zen et ça m'étonnerait pas que ce soit réciproque. Tiens, Arthur H, La Route sur Inter.
Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, puissant qui te porte. Laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Et c'est l'heure tant attendue, l'heure du Zoom Zoom Test, un quiz dans lequel nous allons ensemble aujourd'hui apprendre à blanchir de l'argent. Comment se lancer? Quels sont les pièges à éviter? Quelle carte SIM prépayée choisir? Attendez, un SMS d'Adèle Van Rett, la directrice d'Inter, oui. Alors rectification, un quiz dans lequel nous allons ensemble aujourd'hui apprendre à ne pas blanchir de l'argent. J'étais parti dans la mauvaise direction, hein, car blanchir de l'argent c'est illégal, et quand on fait quelque chose d'illégal, à la fin, on se fait arrêter. Quentin, par exemple, qui conduisait la Peugeot France Bleu comme au trophée Andros, a été arrêté par la maréchaussée, qui lui a passé l'envie de recommencer en lui administrant un coup de taser au bon endroit, celui qui explique que désormais Quentin a cette facilité avec les notes de tête.
Je suis à jamais ta terre.
Oui, le taser. Alors, je sais ce que vous vous dites. Si l'intro du quiz est si longue, c'est que j'ai galéré à trouver des questions. Quentin, moins un pour votre insolence.
Oh, c'est marrant ça.
Une insolence particulièrement malvenue, puisqu'aujourd'hui, contrairement à vos médisances, j'ai trouvé le quiz un thème en adéquation parfaite avec notre mot du jour. Je vous propose un zoom zoom test sur des histoires de blanchiment qui tournent mal, mais aussi d'autres histoires pas de blanchiment, parce qu'il n'y avait pas assez d'histoires sur le blanchiment pour tenir 5 minutes. Attention, top. Ça fait maintenant 1 minute 30 que ce quiz a démarré, et vous n'avez toujours pas été foutu de répondre à une seule question.
Ah non,
vous
pas,
êtes vraiment nul. Vous êtes nul. Alors, une facile, très facile. D'après vous, à quand remonte l'expression blanchir de l'argent? Aux lavandières de Ménilmontant? Aux gangs des dentistes de Montreuil? Ou aux blanchisseries d'Al Capone?
Ah, Al Capone.
Bonne réponse de Quentin, lui.
Mais... Ah, bah, désolé.
Oui, il a dit Al Capone, oh, ça va aussi. Bah, quel jugeote. Al Capone aussi, hein. Blanchissait son argent via la chaîne de blanchisserie Sanitary Cleaning Shops, dont il se serait porté propriétaire en 1928 dans cet unique but. À mon avis, c'était pas le genre de pressing où tu pouvais te permettre de faire ton difficile. Dis donc, cette tâche-là, elle a pas disparu, monsieur Capone? Ah, s'il n'y a pas de son, évidemment, ça marche moins bien. Là, j'étais sans
dire, fait partir.
Ouais, effectivement, sous l'importance des bruitages et du timing des bruitages dans un gag, c'est une petite démonstration. Musique. Quittons à présent Chicago pour nous balader dans les ruelles de la seule ville au monde qui séduit autant les criminels que les touristes bobos du 10e arrondissement, Naples. Une ville pittoresque qui ne laisse personne indifférent, à commencer par Manon qui avait posté sur Insta 68 photos en deux jours, hashtag Napoli ti amo, pizza forever, hashtag tiramisu qui fonce. Une ville que vous connaissez donc très bien et dont est originaire Edgardo Greco. Ne cherchez pas dans vos matchs Tinder, vous ne l'avez jamais croisé, pour cause, Edgardo est un ancien membre de la mafia en cavale qui s'est fait choper en 2023. Mais où et en train de faire quoi? Edgardo s'est fait choper à Limoges alors qu'il faisait du MMA, à Saint-Étienne alors qu'il faisait des pizzas, ou sur les toilettes alors qu'il faisait... Il était aux toilettes.
B. Oh, j'ai dit avant.
Ah, c'est allé très vite, Mais je crois que la VAR nous dit que c'est Manon Marielle qui marque le point. Quoi de mieux pour se faire oublier quand vous êtes un mafieux en cavale que d'ouvrir une pizzeria à Saint-Étienne? Ce bon vieux Edgardo avait réussi à rester sous les radars d'Interpol pendant 16 ans. Ah, il a eu le temps d'en faire des calzones et des suppléments pepperoni à 3 euros. Hélas, comme souvent, l'orgueil sera son point faible, puisque le jour où le journal local lui propose de poser pour la une, il se dit pas « Attention, là je dois dire non parce que je suis un mafieux en cavale ». Non, il dit « Banco ». Résultat, la photo sort dans le journal. Interpol étant désormais doté de la reconnaissance faciale, les autorités italiennes sont prévenues. Fin de cavale pour Edgardo. Enfin, attention, top. D'après vous, est-il possible en 2023 que le présentateur d'une émission phare de France Inter, ne sachant plus comment finir un quiz sur le blanchiment d'argent, ne portant déjà que très vaguement sur le blanchiment d'argent, ose une dernière question concernant un cambriolage, sous prétexte que c'est illégal aussi, même si c'est totalement hors sujet? Impossible, Mathieu Noël est un perfectionniste qui ne s'abaisserait jamais à ça. Ou, avec le passage à l'heure d'été, Mathieu Noël est crevé. Tout ce qui peut lui faire gagner du temps, il se le permet.
On le vit tous les jours, on le sait, c'est notre quotidien.
A osé répondre B. Rien que d'imaginer que je puisse poser une question sur un cambriolage dans un quiz sur le blanchiment, c'est indigne de vous et je vais vous dire indigne de notre émission. D'accord. Attention, top. Cette ultime question ne concerne évidemment pas un cambriolage, mais des cambrioles. Tous se sont mal terminés pour leur auteur. Mais d'après vous, de ces trois propositions, laquelle est vraie? Une femme a retrouvé l'homme qui cambriolait sa maison en train de se faire une petite sieste dans la chambre d'amis. Un cambrioleur s'est assis sur un téléphone portable et a accidentellement appelé la police. Ou un cambrioleur a voulu fêter son larcin en descendant au goulot une bonne bouteille des propriétaires, laissant son ADN.
Les trois,
c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse de Quentin. Match nul.
Et surtout, on peut quand même le noter, fascinantes histoires de blanchiment d'argent.
Oui, merci
Frédéric
pour votre
Ploquin, on zoome avec vous sur le blanchiment. Et c'est l'heure de la question qui fait peur. Loin d'être victime, la finance mondiale est-elle complice de ce blanchiment? Vous citez le criminologue Alain Bauer dans l'introduction de votre livre. Oui, j'adore les bruitages des
salles. Oui,
et quand
ça.
Ils partent, c'est mieux quand ils
ouais,
partent.
C'est
bien.
Beau.
La finance mondiale, nous dit Alain Bauer, n'est plus seulement la victime des attaques à main armée ou des détournements informatiques. Une partie d'elle-même a choisi de pactiser avec le crime et parfois d'investir dans les activités criminelles.
Effectivement, moi je dirais que les gangsters, les mafieux, sont probablement les meilleurs élèves du libéralisme. Mmh. C'est-à-dire que si vous les écoutez, si vous écoutez les criminels, il faut tout déréguler. Il faut lever toutes les barrières douanières, les taxes, et donc finalement ils battent à la course en gros tous les adeptes de ce modèle d'ultra-libéralisme parce que eux ils vont jusqu'au bout jusqu'à même éliminer les concurrents non pas par des moyens légaux mais par des moyens totalement illégaux, c'est-à-dire par l'arme à feu. Et à côté de ça, en face, vous avez un système économique, une finance mondiale qui a toujours soif et toujours faim d'espèces. C'est ça l'idée, et qui donc tôt ou tard va ouvrir ses bras, alors de manière si possible un peu cachée, discrète, pas visible, bien que on ait encore à nos portes le Luxembourg, la Suisse, qui voilà, il n'y a pas nécessité d'aller.
Est-ce que tous les pays, on a compris qu'il y avait une concurrence du point de vue du blanchiment entre pays, ce qui est déjà assez effarant, mais donc ça c'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité des pays comme le Luxembourg et Dubaï, par exemple, dont on parlait tout à l'heure? C'est le même niveau d'agressivité dans la concurrence, ou on peut quand même distinguer?
Disons qu'il y a, je pense que à Dubaï c'est plus dévergondé, on va dire. C'est alors qu'au Luxembourg c'est très très policé. Vous allez au Luxembourg, on va vous recevoir avec un verre de champagne à la cave.
Mais ça reste du blanchiment.
Mais on va quand même à un moment donné compter vos billets pour voir combien vous apportez. Parce que c'est quand même ça l'idée, c'est d'apporter de la fraîche.
Mais Manon, vous parlez beaucoup de Dubaï depuis le début de l'émission, mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï?
Bah à Dubaï, ils sont en train de se reprendre un peu aujourd'hui, puisqu'ils ont accepté d'extrader vers la France deux ou trois grands caïds français, deux ou trois des plus grands trafiquants de stupéfiants du moment. Mais jusqu'à présent, c'était quand même l'endroit où on savait qu'on pouvait partir en cavale, où on savait qu'on pouvait investir sans contrôle. En fait, c'est ça l'idée, c'est l'absence de contrôle, c'est l'ultra-libéralisme fait pays, quoi. Et donc à partir de là, c'est attirant pour tous ces trafiquants. Tous ces mafieux, peut-être plus attirants que la Chine, parce que je dirais, les banques chinoises sont très accueillantes, il n'y a aucun problème.
Leur plage, moi.
D'ailleurs, les mafias chinoises, qui sont quand même parmi les plus puissantes au monde, utilisent le système bancaire de ce pays communiste à fond depuis un demi-siècle. Mais à Dubaï, c'est plus nouveau, puis il y a le côté aussi bling-bling.
Que fait la communauté internationale? Parce que tout ça paraît quand même aberrant. Comment l'ONU, notamment, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'ONU, évidemment, parce que l'ONU est juste une entité interétatique, mais les gens n'essaient pas de se liguer pour imposer des règles, et par exemple dire aux Émirats Arabes Unis, non mais en fait on peut pas faire ça parce que nous, c'est des gens de chez nous qui viennent blanchir de l'argent chez vous, ça fonctionne pas.
Je vais vous raconter une séquence qui s'est déroulée dans les années 90. François Mitterrand avait décidé justement de réunir les GAFA à Paris pour édicter des nouvelles lois pour lutter contre l'argent sale. Donc grand flonflon, trompette, arche de la défense, on fait un... Et effectivement, à ce moment-là, on édicte de nouvelles règles. Jusqu'au moment où la police française se met justement à tenter de les appliquer. Et là, ils font une affaire, deux affaires. Et de quoi s'aperçoivent-ils? C'est qu'en gros, les trafiquants, les mafieux de tout poil, blanchissent leur argent en utilisant les mêmes tuyaux, puisqu'il s'agit bien de tuyauterie, que les fraudeurs du fisc, qui sont pas forcément des bandits, mais qui peuvent être des notables, et que les partis politiques qui se financent à coup de rétrocommission. Donc à un moment donné, je me souviens très bien, moi, je m'occupais déjà de ces sujets, on est au milieu des années 90, Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur, et il appelle, enfin il fait comprendre au nouveau service qui vient d'être lancé en toute fanfare pour lutter contre le blanchiment, qu'il faudrait peut-être un peu lever le pied. Alors après, il suffit de muter les meilleurs experts, de les promouvoir ailleurs, et ça s'est un peu vidé de sa substance. Et en fait, l'obstacle, il est là. C'est qu'en réalité, tout le monde, les politiques, les trafiquants, les notables, les fraudeurs fiscaux, utilisent des tuyaux similaires, parce qu'il n'y en a pas 36.
Si on assèche
et que
les canaux, on assèche
tout le monde. Dès lors que vous mettez votre nez dans un tuyau pour aller traquer l'argent du crime, vous allez peut-être à un moment rencontrer un argent que vous n'auriez pas dû rencontrer.
Quentin.
Dans votre livre, justement, les narcos brisent le Marta, vous êtes allé à la source pour avoir de l'information. Vous avez rencontré vous-même des grands trafiquants. À quoi ils ressemblent? Qui sont-ils?
Absolument. Ben, ils ont pas. Il y a tout, effectivement. Moi, j'ai rencontré, effectivement, pour faire ce livre, des trafiquants depuis le terrain. Donc, celui qui gagne 200-300 euros par jour et qui va utiliser ça essentiellement pour sa vie quotidienne, pour s'acheter des barrettes de shit. Juste au-dessus, j'ai rencontré des petits jeunes qui, à 17 ans, avaient les moyens de s'acheter. Il y en a un qui me dit qu'il avait acheté une crêperie dans le pays d'origine de ses parents, en l'occurrence le Congo. Et après, je suis allé plus loin. Je suis allé à Bogota, en Colombie. Je suis allé à Dakar. Et là, j'ai rencontré des trafiquants français qui, eux, avaient des avocats à Bogota. J'ai rencontré un jeune avocat, comme ça, moderne, plein de, avec la belle voiture de sport et tout ce qu'elle est avec, qui m'expliquait qu'effectivement, lui, son boulot, c'était de blanchir l'argent des trafiquants. Et donc, vous voyez autour pousser tout un tas d'immeubles. Il me disait, regarde l'immeuble qui est là-bas en train de se construire. Ben, ça, c'est moi. etc. Donc, effectivement, je suis allé à la source, comme vous dites.
Constant. Un peu pessimiste aujourd'hui sur France Inter. Vous écoutez justement Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, un témoignage édifiant sur le blanchiment dans le monde du spectacle. Pierre Thévenoud nous dit tout, à visage découvert. Mais d'abord, Manon, il est temps de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une fin de règne.
La semaine dernière, une photo postée sur Twitter en a étonné plus d'un. Kim Kardashian photographie à son insu dans un bar londonien une Guinness à la main. Un cliché à moitié flou qui contraste avec l'image que la star a voulu se donner depuis des années sur les réseaux sociaux. Celle de la femme riche et inaccessible, aux traits filtrés et à la mise en scène toujours grandiose. Kim Kardashian qui règne en maître sur Instagram avec son clan de sœurs au prénom en K, Kylie, Chloé, Kourtney, Kendall. À elle 5, elle cumule 1,5 milliard de followers. Une puissance dont elle se sert pour dicter les tendances et faire rêver leurs abonnés. Mais ça, c'était avant. Car si Kim K et son équipe de communication ont décidé de publier cette photo d'elle au naturel, entre guillemets, dans ce pub londonien, ce n'est pas pour rien. Car l'image parfaite des sœurs ne fait plus rêver. Au contraire, la preuve, leur télé-réalité culte ne plaît même plus à leurs fans.
Ça, je vous crois pas. Moi, je rate aucun épisode.
Oui, c'est votre côté ringard, ça, Mathieu. Bref. Après 20 saisons sur la chaîne E-Entertainment, c'est Disney Plus qui a récupéré la production de l'incroyable famille Kardashian, rebaptisée sobrement les Kardashians. Elles espéraient reconquérir une audience déjà en baisse avec un budget plus conséquent et toucher plus de monde grâce à la plateforme mondiale. Mais il faut se rendre à l'évidence, tout le monde s'en fout. Leur bling-bling de nouvelles riches n'intéresse plus, leur faux drama non plus, leur superficialité qui a fait leur succès dans les années 2000 semble totalement dépassée aujourd'hui.
En gros, vous nous dites que les Kardashians sont devenues ringardes.
Oui, et la pire chose à faire pour des personnes ringardes, essayez de redevenir cool. Vous savez,
c'est comme
les mamans qui essayent d'être aussi tendance que leurs adolescents, c'est un grand non. Ça a commencé quand Kim Kardashian s'est maquée avec l'humoriste du Saturday Night Live, Pete Davidson. Lui, des tatouages partout, hipster intégral, l'anti-Kanye West, l'ex-mari de Kim K. Leurs photos sur les réseaux faisaient un buzz incroyable à chaque fois, mais leur relation n'a pas duré. Et puis, les sœurs K se sont mises à TikTok, mais pas avec n'importe qui. Elles suivent des tendances avec leurs filles préadolescentes pour essayer justement de rajeunir leur audience et d'avoir une image de cool mom. Sauf que c'est toujours un peu angoissant de voir des parents mettre en scène leurs enfants mineurs sur des réseaux pour attirer du like. Et puis dernièrement, la cadette des sœurs, la plus hype, la préférée, Kylie Jenner, a perdu son statut de femme la plus suivie sur Instagram. Elle s'est faite surpasser par elle. Vous la reconnaissez, Mathieu ?
Ils ont toussé tellement.
Selena Gomez, alors j'en avais parlé dans une chronique et ce n'est pas anodin, car Selena et Kylie sont deux opposées. L'une est ultra naturelle sur ses réseaux, parle de ses problèmes de santé mentale publiquement, alors que l'autre s'exprime très peu sur sa vie privée et se met en scène dans des photos qui semblent toujours sorties de Vogue, le Ying et le Yang.
Les gens sont donc clairement plus team Selena.
Oui, Mathieu, 2023 semble être son année. En fait, pour beaucoup, c'est surtout deux images de la femme qui se différencient. Selena Gomez représente la cool girl, celle avec laquelle on a envie de boire une bière en pyjama en parlant de mecs. Kylie et ses sœurs, elles, sont dans la catégorie mean girl, ces femmes toujours dans la rivalité qui vont vouloir montrer qu'elles sont plus puissantes que les autres. Sauf que les réseaux sociaux aujourd'hui ne veulent plus ça. Les gens sont à la recherche d'authenticité. C'est pour cela que les influenceurs abandonnent les filtres et se montrent sans artifice, ou que des énormes stars vont faire des podcasts pour parler de la pression qu'elles vivent au quotidien. L'ère 2.0 des mean girls semble donc être révolue, mais il faudra plus qu'une photo dans un bar miteux pour que Kimka arrive à se forger une image de cool girl.
Merci Manon. À noter qu'ici, dans Zoom Zoom Zen, on n'a pas raté le tournant de l'authenticité et des bars miteux, comme le prouve la story que je m'apprête à publier, où l'on voit Quentin haranguer la foule d'un bar karaoké de Pigalle baptisé La Noche.
La Noche, vous êtes toujours là.
Vous avez osé ça?
Lead singer un jour, lead singer toujours. Elle s'est rarement produite à La Noche. Elle ça fait pourtant un joli brin de carrière. On écoute Arlo Parks, Weightless sur Inter. Blanchiment n'est pas une combine, c'est un business model. Il fait partie des derniers humoristes à indiquer pas de carte bleue à l'entrée de la salle, du cash, rien que du cash. Bonjour Pierre Thévenoud.
Tu crois pas si bien dire. C'est parti pour le comique. Alors, je m'en plains souvent, mais là pour le coup, ça m'arrange pas mal d'avoir un thème imposé à chaque émission, car je peux habilement esquiver le thème des retraites. Hein, t'es humoriste sur France Inter, on t'attend là-dessus. Moi, de toute façon, je bosse 3 minutes par semaine. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'à 80 piges, je serai encore là à touiller le café de Nagui. Puis en 2060, le président, ce sera sûrement un TikToker. Donc, avec président Dylan, je me fais pas trop d'illusions. Hein. Ceux qui ont moins de 100 000 followers sur Insta, ils ont pas de retraite. Ok, Dylan, allez, on tient le bon bout. Alors, j'ai une copine. Ouais, elle est au courant que je dis que c'est ma copine. Elle est étrangère. Et je me suis retrouvé à un repas avec tous ses potes étrangers. Cyril, les étrangers, les sales bêtes. Hein, voilà. Et il disait, non mais chez nous, la retraite c'est à 65 ans, pourquoi vous gueulez, vous les Français, vous avez déjà la sécu, l'école gratos, vous êtes jamais contents, gna gna. Le gars, il était espagnol. Déjà, je lui dis, ferme-la bien et va bouffer du chorizo. Ah. Panique pas, Mathieu, je me suis renseigné. Les remarques racistes, c'est ok si c'est contre un autre pays de l'Union Européenne. J'ai demandé à un avocat, je suis inattaquable.
Et après, je me suis dit, en fait, les Français, c'est parce qu'on gueule tout le temps que ça maintient une protection sociale pas trop pourrie. J'ai eu une illumination. Et d'un coup, j'étais militant. J'ai dit, allez où la manif? Je viens avec vous. Bon, j'ai un brunch de réservé. Faut s'y prendre 3 semaines à l'avance. Les avocats d'auto, ce sont dingues. Mais promis, je viens la semaine prochaine. Voilà. Sujet du jour, le blanchiment d'argent. Il y a eu une transition. Tu l'as pas vu, mais t'as pas été attentif, mais il y a eu une transition.
Si, si, mais je suis au taquet.
Voilà. Beaucoup de trafiquants de drogue qui blanchissent de l'argent. Il y a une boutique dans mon quartier. Je soupçonne que ça soit pour blanchir de l'oseille un peu, quoi. C'est une petite épicerie. Écoute, le mec, il a, sans déconner, 3 produits en vente dans le magasin. Les étagères, elles sont vides. Il y a du coca, de l'huile et des M&M's. J'arrive, je prends le dernier paquet de M&M's, je vais à la caisse, le gars il dit « Ah mais il restait un paquet !»« Désolé, j'ai trop faim, je le prends, mais j'ai de l'huile si tu veux !» Il cherche pas à optimiser ses bénéfices, le monsieur, c'est douteux quand même. Petite anecdote de vie. J'ai un pote, plus jeune, il aimait bien la drogue. Alors voilà, c'était vraiment son truc, dans son CV, il l'a mis dans les hobbies. Quoi. Il y a un voyage, cinéma, et énormément de coke. Il a acheté sur le dark web et fallait payer en crypto-monnaie. Donc il a acheté des bitcoins. Ça fait un moment qu'il a arrêté, hein, parce qu'avoir le pouls à 240 au repos, c'est pas bon. Hein, la visite médicale, tu te fais gronder. Mais bon, récemment, petit coup de moins bien. Et c'est souvent dans les petits coups de moins bien que les dealers font le gros de leur chiffre d'affaires. Ils retournent sur le dark web pour acheter un peu de coke. Il avait oublié qu'il avait des bitcoins et m'appelle et me dit « Truc de fou, j'ai gagné 80 000 balles en bitcoin ». Je sais pas trop ce que c'est la morale de l'histoire. Elle est sûrement pas ouf, mais elle est là. Quoi. Voilà, quoi. Moi, je prends pas de drogue. Parce que chez France Inter, il y a une grosse politique de prévention anti-drogue chez les salariés via une stratégie très efficace qui consiste à maintenir les salaires bien en dessous du prix d'achat de la cocaïne. Donc automatiquement, tout le monde est clean. Vous qui nous écoutez, si vous avez de l'argent à blanchir, petite astuce, venez me voir en spectacle à Paris,
ah ben voilà.
À la Bourse du Travail à Lyon et partout en France. Espèces, bitcoin, louis d'or, on prend tout,
on s'arrange. Louis d'or, bon, merci Pierre Thévenoud, on se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Frédéric Ploquin, je vous remercie de nous avoir éclairé sur les ressorts de plus en plus raffinés du blanchiment d'argent. C'est quoi, Frédéric, la prochaine menace pour les finances publiques, la nouvelle combine du blanchiment dont on va entendre parler demain?
Ce sera probablement la plus artisanale qui soit. En fait, leur force, c'est de retourner au Moyen-Âge.
D'accord. C'est là qu'ils sont intraçables.
En fait, les billets ne bougent pas, ils changent de pays sans bouger. Ça s'appelle la compensation et c'est, à mon avis, ce qui a le plus d'avenir.
Merci encore, Frédéric. Je rappelle votre dernier livre, Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques chez Plomb. Merci à tous. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière, Étienne Bertin était à la réalisation, Jenab Sangaré, la technique. Zoom Zoom Zen, c'est fini. Et comme dirait l'autre.
Voilà, ils ont tenu l'antenne pendant 1 heure en direct, du lundi au vendredi, ils auront fait des zooms tout en restant zen.
Pas mieux. On se retrouve demain 16h avec une question. Être beau ouvre-t-il toutes les portes? La beauté est-elle un passe-droit? Zoom sur ce phénomène qu'on appelle le pretty privilege. À demain 16h.